de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
C'est le journal, bonsoir, voici le journal, nous commençons avec les titres. Il n'y a pas encore d'informations sur les citoyens indonésiens touchés par les inondations en Libye. Le ministre coordinateur de l'économie a déclaré que la logistique était la clé principale de la croissance économique. Le ministre coordinateur de l'économie estime que les minéraux critiques rendent l'Indonésie supérieure. Une partie ambassade des États-Unis collabore pour améliorer la qualité de l'éducation. Au WWC en Chine, le chef du BMKG a appelé à une gestion sérieuse de la crise mondiale de l'eau. Des dizaines d'écoles australiennes ont visité la salle de tourisme culturel de l'ambassade d'Indonésie à Canberra. Voici le journal complet. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Lalu Muhammad Iqbal, a déclaré que le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de l'ambassade d'Indonésie à Tripoli, était toujours en train d'identifier d'éventuels citoyens indonésiens victimes de la crue soudaine survenue à Derna, en Libye, dans un communiqué prononcé jeudi 14 septembre à Jakarta. Iqbal a déclaré que la situation géographique de Derna, assez éloignée de Tripoli, était l'un des obstacles au processus d'identification. Cependant, il a confirmé que jusqu'à la rédaction de cette nouvelle, aucun rapport n'avait été reçu concernant des victimes des citoyens indonésiens à cause des inondations.
Kita sedang melakukan identifikasi terus. So far, sampai hari ini kita tidak punya info.
Nous continuons à procéder à l'identification. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune information selon laquelle des citoyens indonésiens seraient devenus des victimes. Mais comme c'est dans la région de l'Est, il y a deux régions en Libye et cette zone est assez éloignée de Tripoli. Donc, il nous faudra du temps pour confirmer. Mais jusqu'à présent, aucun citoyen indonésien n'a été victime dans la région. Par ailleurs, concernant l'aide, Lalu Muhammad Iqbal a déclaré que le gouvernement indonésien était prêt à envoyer de l'aide au gouvernement libyen dans le but d'aider les victimes des crues soudaines. Cependant, selon lui, le gouvernement libyen n'a pas envoyé de demande officielle concernant l'aide en question. Le week-end dernier, l'Est de la Libye a connu des crues soudaines. Les inondations qui ont fait des dizaines de milliers de victimes ont été provoquées par de fortes pluies qui ont touché plusieurs zones, notamment les villes de Derna, Benghazi, Al-Baïda, Al-Marj et Sousa. Le système logistique est l'une des clés importantes pour soutenir une croissance économique nationale accélérée. C'est ce qu'a déclaré jeudi le ministre coordinateur des affaires économiques, Elanga Hartarto, lors de l'événement La nouvelle ère de l'écologistique pour l'Indonésie d'or 2045 à Jakarta jeudi. Erlangga a également déclaré que le gouvernement continue de s'engager à améliorer les performances logistiques nationales à travers diverses politiques, dont l'une est la mise en œuvre de l'écosystème logistique national, NLE, en tant que forme de synergie des systèmes d'information et de collaboration entre les agences et les acteurs commerciaux pour accroître l'efficacité logistique nationale. Sa mise en œuvre a été étendue à 32 ports maritimes et 6 aéroports en 2023. En outre, Erlangga encourage la collaboration entre les parties prenantes afin que le renforcement des chaînes logistiques et d'approvisionnement national ne se limite pas à l'intégration des systèmes, mais également aux infrastructures et aux ressources humaines. Le ministre coordonnateur des affaires économiques, Erlangga Hartarto, estime que les minéraux critiques font l'Indonésie une position de producteur supérieure à celle des autres pays. Il a déclaré cela lors de la conférence des membres de l'Association indonésienne des émetteurs, AEI 2023, citée par Antara dans une déclaration écrite jeudi. Les minéraux critiques sont des ressources minérales sous forme de métaux et de non-métaux qui ont une valeur économique. Selon lui, les minéraux critiques sont actuellement nécessaires car ils sont la clé pour réaliser la transition vers les énergies nouvelles et renouvelables, ou EBT. L'Université Patimura Unpati d'Ambon, des Moluques et l'ambassade des États-Unis collaborent pour améliorer la qualité de l'éducation au plus grand campus de la province des Moluques à travers le cordon américain. Pour cette raison, merci Karel, spécialiste régional de l'engagement du public, et Abraham, responsable adjoint des affaires culturelles des États-Unis, ont effectué une visite de travail à l'Université Patimura Ambon. Ils étaient accompagnés de la responsable du corner américain Unpati, Ingrid Tanasal. Le recteur d'Unpati, Sapteno, à Ambon, a déclaré jeudi qu'il espérait que la collaboration avec American Corner puisse être mise en œuvre, notamment pour les étudiants développant leurs compétences en langues étrangères à travers des activités de 5 jeux d'étudiants ou des bourses. Ingrid Tanasal a expliqué qu'American Corner a été créé comme un forum d'information sur l'éducation, la politique, la culture et d'autres choses sur les États-Unis. Le chef de l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique, BMKG, Dwiko Kita Karnawati, a déclaré que le changement climatique qui a un impact sur la crise de l'eau devient une menace de plus en plus sérieuse et doit donc préoccuper et surveiller tous les pays du monde. Il a fait cette déclaration lors du 18e Congrès mondial de l'eau à Pékin mercredi, selon des informations officielles reçues jeudi par Antara. Le chef du BMKG a été invité comme l'un des principaux conférenciers à un panel de haut niveau qui abordait le thème « Infrastructures hydrauliques résilientes et sécurité mondiale de l'eau ». L'événement a lieu du 11 au 15 septembre 2023. Dwiko Kita a déclaré que la perturbation du cycle hydraulique entraînant une crise de l'eau était causée par le rythme élevé du changement climatique, déclenché par une augmentation des émissions de gaz à effet de serre provenant des activistes humains. Dwiko Kita a appelé tous les pays à participer à la solution des problèmes de l'eau et à reconnaître l'importance de l'eau pour le développement durable et le bien-être des citoyens. Tout au long de cette année, des dizaines d'écoles de diverses villes d'Australie ont visité la salle de tourisme culturel de l'ambassade de la République d'Indonésie, KBRI, à Canberra, pour découvrir la diversité de la culture indonésienne. C'est ce qu'a déclaré jeudi l'attaché à l'éducation et à la culture de l'ambassade d'Indonésie à Canberra, Muhammad Najib, dans une déclaration écrite citée par Antara. Najib a expliqué que les étudiants australiens ont été informés sur l'Indonésie, notamment sur la situation géographique de l'Indonésie, proche de l'Australie, sur la culture, la langue, les attractions touristiques et les lieux historiques. Les étudiants ont également reçu une explication sur les objets culturels trouvés au centre de tourisme culturel, tels que le wayang, le réor, les vêtements traditionnels, les instruments de musique traditionnelle de diverses régions d'Indonésie. Si le temps le permet, des mini-ateliers sur gamelan angklung udang tradisional song tegamang proposé. Saya Zurita, saya telejurnal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonjour à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée 30 ans de l'accord d'Oslo. Vous êtes avec moi Audrey. Chargé d'art le 13 septembre de cette année, cela fera 30 ans. Cela fait 30 ans que les accords d'Oslo ont été signés par deux parties en conflit depuis plus d'un siècle, à savoir le gouvernement israélien et l'entité palestinienne, représentée par l'Organisation de libération de la Palestine, ou OLP. L'accord d'Oslo constitue en réalité un moment crucial dans les efforts visant à instaurer la paix. Dans cet accord, l'OLP, représentée par son leader Yasser Arafat, a accepté de reconnaître l'État d'Israël. Pendant ce temps, le gouvernement israélien, représenté par le Premier ministre Yitzhak Rabin, a pour la première fois officiellement reconnu l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, comme représentant légitime du peuple palestinien. À cette époque, Yitzhak Rabin acceptait que la Palestine forme son propre gouvernement limité à Gaza et à la Cisjordanie. Cette reconnaissance mutuelle de l'existence est considérée comme la première étape du processus de paix qui devrait avoir lieu ultérieurement. Ce processus comprend le retrait de toutes les troupes israéliennes de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, ainsi que le droit de la Palestine à déterminer et gouverner son propre territoire. Malheureusement, les accords d'Oslo ont commencé à s'effondrer après une série d'événements. Le premier événement qui a déclenché l'effondrement de l'accord d'Oslo a été l'assassinat du premier ministre israélien Yitzhak Rabin en novembre 1995 par Yigal Amir, un Israélien opposé à l'accord d'Oslo. Après ces événements, Israël a cessé de céder des territoires et des pouvoirs supplémentaires aux Palestiniens et a refusé de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions importantes de l'accord. L'assassinat de Yitzhak Rabin a été suivi d'une série d'attaques de type terroriste perpétrées par la Hamas, une organisation dissidente de l'OLP. Les actions du Hamas ont pour effet d'affaiblir le soutien du peuple israélien au parti travailliste lors des élections israéliennes de mai 1996. Même si le parti travailliste soutient les efforts de paix israélo-palestinien, les attaques du Hamas ont renforcé le soutien à Benjamin Netanyahu du parti Likoud, historiquement opposé à la création d'un État palestinien et au retrait des territoires occupés. Après ces deux événements, diverses tentatives ont été faites pour résoudre le conflit israélo-palestinien, mais ont toujours échoué. Jusqu'à présent, le conflit israélo-palestinien se poursuit et la violence continue de se produire. Selon les données du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, de 2008 à 2022, 6014 Palestiniens ont été victimes du conflit israélo-palestinien. Entre-temps, les chiffres des Nations Unies montrent qu'environ 700 000 colons juifs vivent désormais en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, des zones qui constituent le cœur d'un futur État palestinien. Le développement résidentiel s'est également développé rapidement. Pendant ce temps, au cours des 18 derniers mois, comme cité par republica.co.di, 14 septembre 2023, les attaques menées par des Palestiniens en Cisjordanie ont causé la mort de dizaines d'Israéliens, dont des civils et des soldats. D'un autre côté, les attaques menées par les colons juifs dans les villes et villages palestiniens, ainsi que les attaques presque quotidiennes des forces israéliennes, ont tué des centaines de membres de groupes palestiniens et un certain nombre de civils. De telles conditions font que la paix israélo-palestinienne semble loin d'être désespérée. Néanmoins, les différentes parties doivent poursuivre leurs efforts pour créer une paix durable entre Israël et la Palestine. Jusqu'à présent, les États-Unis ont toujours joué un rôle clé de médiateur dans les négociations de paix israélo-palestinienne. Malheureusement, les États-Unis n'ont pas réussi à remplir leur rôle de médiateur dans ce conflit. On espère que d'autres parties, notamment les pays européens, participeront à la médiation dans le conflit israélo-palestinien. Les pays européens doivent rejouer leur rôle historique en poussant les politiques internationales à résoudre le conflit israélo-palestinien en se concentrant sur l'égalité des droits pour les deux peuples, conformément au droit international. Bon, cher Jéhétard, c'est tout. Le commentaire.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des cinq destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voequiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the
world. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec les événements du 15 septembre 1984, la naissance du prince Harry. Le prince Harry est la plus jeune fille du prince Charles et Lady Diana. Il est né à l'hôpital Saint-Marie de Londres le 15 septembre 1984. Son nom de naissance était André Charles Albert David, avec le titre de duc de Sussex, mais mieux connu sous le nom du prince Harry. Au moment de la naissance du prince Harry, il était troisième sur le trône britannique après le prince Charles et son frère aîné, le prince William. Le prince Harry a été baptisé alors qu'il avait 3 mois, soit 21 décembre 1984, à la chapelle Sainte-Marie George, le palais de Windsor. Le 15 septembre 2000, l'ouverture des Jeux olympiques de Sydney. L'ouverture des 67e Jeux olympiques d'été, souvent appelés alors Jeux olympiques de Sydney, a eu lieu dans la soirée du 15 septembre 2000. La cérémonie d'ouverture a duré plus de 5 heures. L'ouverture des Jeux olympiques de Sydney a été considérée comme l'une des ouvertures les plus existantes des Jeux olympiques d'été. Selon l'agent Duncan Nelson, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Sydney a été retransmise par le réseau NBC, regardée par plus de 27 millions de téléspectateurs. Il y a eu la meilleure performance à l'ouverture des Jeux olympiques de Sydney, à savoir que l'athlète portant la flamme olympique a été vu entrer dans l'eau, mais la flamme ne s'est pas atteinte. Le feu a réussi à allumer la grande vase qui a marqué le début du 27e Jeux olympiques. Le 15 septembre 2007, la commémoration de la Journée internationale de la démocratie. L'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 15 septembre comme Journée internationale de la démocratie. Le but de cette commémoration est de maintenir les valeurs démocratiques pour tous les partis, notamment le gouvernement. La Journée internationale de la démocratie vise également à être un média pour promouvoir le rôle du gouvernement dans le maintien d'une démocratie ouverte parmi tous les pays membres de la Charte des Nations Unies, pour rappeler de donner aux citoyens le pouvoir de prendre des décisions concernant tous les aspects de leur vie, observer les élections. La Journée internationale de la démocratie est célébrée pour renforcer les institutions et la responsabilité démocratique, ainsi qu'aider les pays sortants d'un conflit à créer leur propre constitution. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa? Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Di antara kita, baru ku rasakan ada. tiada ada ragu bila memang benar kita.
Biarlah rasa ini benar, benar jadi nyata.
Tiada alasan untuk menahan semua yang akan membawa kita ke sana.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers amis de l'antenne, pour la suite suivante, voici donc Mon Indonésie ayant pour le titre « Le président souhaite que les dépenses publiques en matière de meubles soient dominées par les produits nationaux. » Le président Joko Widodo souhaite que les dépenses du gouvernement en matière de meubles soient dominées par les produits de meubles nationaux. C'est pour cette raison que le président a demandé aux acteurs nationaux de l'industrie du meuble d'inclure immédiatement le produit dans le catalogue électronique d'achat du gouvernement. C'est ce qu'a déclaré le président Joko Widodo lors de l'exposition indonésienne du meuble et du design IFINA 2023 à Tangerang, Banten, jeudi, cité par Antara, jeudi 14 septembre. Le président a déclaré que les dépenses en meubles représentaient une part assez grande des dépenses globales APBN, APBD et BUMN en 2023, soit 1236 billions de rupiah. Le président espère que l'industrie indonésienne du meuble pourra dominer le marché intérieur du meuble en raison du grand potentiel de l'industrie nationale. Le président a également déclaré que le gouvernement continue d'encroiser le marché intérieur à ne pas être dominé par les produits de meublement étrangers. Selon le président, pour dominer le marché intérieur, la suite des actions incombe aux acteurs de l'industrie. Un effort à faire est de rechercher des partenaires étrangers de l'industrie du meuble pour travailler ensemble. Sur le marché mondial du meuble, le président a expliqué qu'actuellement, l'Indonésie occupe le 17e rang avec des revenus de 2,8 milliards de dollars américains, même si le potentiel du marché mondial atteint 766 milliards de dollars américains. Le président Widodo a également déclaré que dans les années 1990, les produits d'ameublement indonésiens ont toujours dominé les expositions à l'étranger, comme en Italie, en Allemagne, en France et dans d'autres pays. Cependant, à l'heure actuelle, le classement de l'industrie indonésienne du meuble est toujours inférieur à celui du Vietnam, qui occupe la deuxième place, et de la Malaisie, qui occupe la deuxième place. En fait, selon le président, les ressources, les matières premières et les ressources humaines de l'Indonésie sont en fait très prêtes. C'est Zulitar, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Et cette fois, je vais vous présenter le culinaire siomai. Chers auditeurs, le guide de voyage et de cuisine traditionnelle en ligne Test Atlas a publié le 4 septembre dernier les 50 meilleurs snacks ou street food au monde. La nourriture indonésienne, à savoir somai, occupe la première place et batagor verada la sixième place. Les raviolis ou siomai sont à la première place. Test Atlas est une encyclopédie des aliments et des boissons qui propose un catalogue de 10 000 plats provenant de diverses régions du monde. Le réseau a rassemblé 50 128 observateurs de l'alimentation et des boissons pour évaluer un plat. Chers amis, le siomai est en fait un plat culinaire chinois. En mandarin, cette nourriture s'appelle shaomai, tandis qu'en cantonais, elle s'appelle siomai. Cette nourriture s'est répandue en Indonésie parce qu'elle a été apportée par les Chinois. Le siomai est un aliment à base de viande enveloppée dans une peau de boulette. En Indonésie, il existe différents types de variations de siomai basées sur la garniture, allant des boulettes de poisson au maquereau, au poulet, aux crevettes, aux crabes, ou à un mélange de poulet et de crevettes. Les ingrédients de la garniture sont ensuite mélangés avec du sagu et du tapioc, puis enveloppés dans une peau de wonton et bouillis. Le siomai est généralement servi avec plusieurs types d'ingrédients complémentaires, notamment des œufs de poule bouillis, du tofu bouilli et des légumes comme des pommes de terre, des melons amers et du chou. Le siomai est généralement servi avec un pot de sauce aux cacahuètes à base de cacahuètes moulues, mélangées à des épices et diluées avec de l'eau. Les assaisonnements pour la sauce aux arachides comprennent les piments rouges, l'ail, le sucre cristallisé, le tamarin, le sel de table et le vinaigre. Au moment de servir, vous pouvez ajouter de la sauce soja sucrée, de la sauce chili et du jus de citron vert au raviolis. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le magazine culturel.
Dunia, 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 d
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Étudiants de l'ITS innovent sur les routes recouvertes de panneaux solaires sur les ponts ». Vous êtes avec moi Audrey. Chargé tard, le développement rapide des infrastructures en Indonésie contribue également aux émissions de carbone et constitue un déclencheur majeur du changement climatique. Face à ces conditions, trois étudiants du département de génie civil de l'Institut de technologie de Spulunopember, ITS, ont innové en créant une route recouverte de panneaux solaires sur le pont. Le chef de l'équipe, Royce Giovanno Sutigno, a expliqué que cette innovation découle de la question du changement climatique, qui est devenu un sujet et un fait mondial. L'utilisation minimale des nouvelles énergies renouvelables EBT dans le développement des infrastructures a été le point de départ de cette innovation. Royce a déclaré que le choix de cette innovation n'était pas sans raison. Avec une irradiation moyenne de 2000 à 3000 heures toute l'année, l'Indonésie a le potentiel de remplacer les uses d'électricité plus respectueuses de l'environnement. En dehors de cela, la mise en place des routes solaires sur les ponts est également considérée comme plus efficace que les autoroutes qui sont parfois bloquées par des arbres ou des immeubles de grande hauteur. C'est pourquoi Royce et son équipe ont conçu ce pont innovant avec un minimum de cadres supérieurs et latéraux. Par conséquent, grâce à la conception du pont de 756,5 mètres de long réalisé par l'équipe ITS, il peut produire une énergie électrique de 13 843,95 kW par heure. Pas seulement il est efficace pour fournir le BT, mais ce pont révolutionnaire de Royce et de son équipe s'est également avéré deux fois plus résistant que l'asphalte. Fabriqué à partir de verre trempé composé de trois couches principales, à savoir la couche de revêtement routier, la couche électronique et la couche de plaque de base. La route solaire peut avoir une durée d'utilisation allant jusqu'à 20 ans. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Tatap mata tak sengaja, buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya, cinta datang tiba-tiba. Mau tak mau, kamu aku tertangkap situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu.
Voice of Indonesia.
Berulang kali aku bertanya pada diri sendiri tentang kita. Apakah benar kau ada di hatiku? Benarkah ada di hatimu? Mengapa kini tak terlihat ada kau di sini di dalam hatiku? Baru ku sadari kau telah menjauh. Baru ku sesali kau tak lagi ada.
diriku. Tiada yang salah, hanya saja terasa ku berubah. Tak lagi seperti saat kau di sini. Semua terasa sangat indah. Mengapa kini tak seindah dulu saat kau masih ada di hatiku. Baru ku sadari kau telah menjauh. Baru ku sesali kau tak lagi ada.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voequiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants.
From Indonesia to the world.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Tana Toraja, Sulawesi du Sud, intitulée Marendeng Marampa. Sorjeteur Marendeng Marampa, qui signifie sécurité et paix, est une chanson qui unit le peuple Toraja. Cette chanson présente les souvenirs de la terre de naissance des Toraja qui vivent à l'étranger. Marendeng Marampa raconte l'histoire de Toraja qui est sûre et paisible, avec des vallées, des montagnes, des collines, des rizières et des champs. Les paroles parlent également de la ténacité du peuple Toraja qui a un bon moral et n'abandonne pas facilement. Les Torajiens sont conscients de leur obligation d'atteindre la grandeur. Mon cher Jétar, voici Ucu Subre va chanter une chanson de Tana Toraja sur la Sulawesi du Sud intitulée Marendeng Marampa. Bonne écoute!
Dengan tetoraya, lebukan Sulawesi.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.